إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on continue ce soir la lecture et l'étude des règles de la zakat à partir de l'ouvrage Manhaj al-Salikin, écrit par l'imam Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nasi'di rahimahullah ta'ala. Nous avons vu dans le cours d'hier la définition de la zakat, les preuves de son obligation ainsi que ses bénéfices et les conditions la rendant obligatoire. Après cela, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous a exposé les biens qui sont soumis à la zakat. Il a dit rahimahullah, wa la tajibu az-zakatu illa fi arba'ati anwa'. Et la zakat n'est obligatoire que sur quatre types de biens. C'est-à-dire que la zakat n'est pas obligatoire sur tout ce que possède l'homme. Mais il y a quatre types de biens sur lesquels elle est obligatoire. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala nous les a mentionnés ici. Il dit premièrement, As-sa'imati min bahimati al-an'am. La sa'ima parmi les bêtes de cheptel. Et ce qui est visé par as-sa'ima, c'est celle qui est nourrie au pâturage. La preuve à ce sujet est le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dans lequel Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que Abu Bakr lui a écrit une lettre dans laquelle il a mentionné les différents seuils de la zakat prescrits par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir ce hadith car l'auteur rahimahullah ta'ala nous l'a mentionné par la suite. Et le bétail concerné par cette zakat est de trois espèces qui sont les chameaux, les bovins ainsi que le cheptel, ovins et caprins, c'est-à-dire les moutons et les chèvres. Et l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné, comme cela est précisé dans le hadith, que la zakat ne concerne que le bétail nourri au pâturage, c'est-à-dire que son propriétaire ne nourrit pas de foin ou de fourrage ou autre. Mais il laisse manger tout au long de l'année, ou la majorité de l'année, c'est-à-dire au moins plus de 6 mois, de ce qui pousse sur la terre, en les laissant paître dans les champs ou autre. Mais si durant plus de 6 mois dans l'année, le propriétaire du bétail nourrit ses bêtes en achetant pour les nourrir du foin, du fourrage ou autre nourriture parmi ce que le bétail mange, alors il n'y aura pas de zakat. La zakat concerne donc le bétail qui est nourri au pâturage. Le deuxième type de bien qui est soumis à la zakat, le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit « wal kharij min al-ard » et ce qui sort de la terre. Et ce qui est visé par cela, c'est les produits de la terre parmi ce qui se mesure et ce qui se conserve. Et les gens de science ont mentionné que cela concerne les grains et les fruits. Les grains comme le blé, l'orge et le riz, qui sont des grains qui se mesurent et se conservent. Et parmi les fruits, ils ont mentionné les dattes et le raisin, car ce sont des fruits qui se mesurent et qui se conservent une fois séchés. Quant aux légumes ou les autres fruits comme les oranges, les pêches ou autres, alors il n'y a pas de zakat sur cela. La zakat ne concerne donc que ce qui peut être mesuré et conservé. Le troisième type de bien qui est soumis à la zakat, le Cheikh nous dit, rahimahullah, wal athman. Al athman, cela signifie les valeurs, c'est-à-dire ce qui sert de monnaie dans nos échanges pour acheter des marchandises, comme les dinars et les dirhams, qui étaient respectivement les pièces d'or et d'argent. Et entrent dans cela les monnaies que l'on utilise aujourd'hui dans nos échanges, comme l'euro, le dollar, le dinar, le dirham, le rial, et ainsi de suite. Ces monnaies sont également soumises à la zakat. Le quatrième type de bien qui est soumis à la zakat, le Cheikh nous dit « wa'urud al-tijara » et les marchandises ou alors les biens commerciaux. Et cela désigne tout ce qui est acheté avec intention de le revendre dans le but d'en tirer un bénéfice, quel que soit cet objet, que ce soit des vêtements, des bijoux, des livres, de l'immobilier comme des terrains, des maisons, des voitures, des pièces automobiles ou toute autre chose qui est achetée avec l'intention de le revendre dans le but d'en tirer un bénéfice. Quant à ce que la personne possède, comme maison, voiture ou autre, et qui n'est pas destiné à la vente dans le but d'en tirer un bénéfice, alors ceci n'est pas concerné par la zakat. Donc ceci sont les quatre types de biens qui sont soumis à la zakat. Et bien sûr, la zakat est obligatoire sur ces biens, selon les conditions mentionnées dans le cours d'hier, et on va voir les détails concernant leur nisab et le taux de la zakat qui doit être versé sur ces quatre types de biens. Et le cheikh, rahimahullah ta'ala, a commencé par nous mentionner les détails concernant zakat ou sa'imah, la zakat des bêtes de cheptel nourries au pâturage. Il a dit, rahimahullah, fa'amma sa'imah, fal'asru fiha hadith Anas. Quant à As-Sa'imah, quant à la bête de cheptel nourrie au pâturage, la base à ce sujet est le hadith de Anas. Anna Aba Bakrin, radiyallahu ta'ala anhu, kataba lahu, qui rapporte que Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, lui a écrit: Hadihi faridatu sadaqa, allati faradaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ala al-muslimin, wallati amara Allah biha rasulahu. Ceci est la prescription de l'aumône qu'a prescrite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aux musulmans et celle qu'Allah a ordonnée à son messager. Donc on voit que Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il commence dans cet écrit à rappeler que ce qu'il a écrit dans cette lettre, il ne fait que le transmettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous rappelle que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit, il ne l'a prescrit que sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Mais tout ce qu'il prononçait comme ordre était une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam, le musulman se doit de s'y soumettre au même titre que les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il va ici nous mentionner le nisab de la zakat concernant les bêtes de cheptel, ainsi que le taux de la zakat. Et comme vous allez le voir, il y a différentes mesures et différents points à noter ici, et je vous conseille, pour ceux qui souhaitent retenir cela, et notamment si certains sont concernés par cela, de faire un tableau pour le noter, en mettant une colonne pour le nombre de bêtes que l'on possède et une colonne pour ce qui doit être sorti en zakat. Il commence donc en disant: Fi arba'in wa ishrin min al-ibil, fama dunaha min al-ghanam, fi kulli khamsin shah. Celui qui possède 24 chameaux ou moins, il devra donner par tranche de 5 un mouton. Pour chaque tranche de 5 chameaux, un mouton. Qu'est-ce que cela signifie? Que celui qui possède moins de 5 chameaux, qui en possède 1 à 4, alors celui-ci n'a pas de zakat. Donc vous pouvez noter ici, concernant les chameaux, 1 à 4, il n'y a pas de zakat. Ensuite, celui qui en possède 5 jusqu'à 9, de 5 à 9, il devra sortir en aumône un mouton. À partir de 10 et jusqu'à 14, il devra sortir 2 moutons. De 15 jusqu'à 19, il devra sortir 3 moutons. Et de 20 à 24, il devra sortir 4 moutons. Ceci concerne donc celui qui possède 24 chameaux ou moins. Ensuite, il dit: Fa'ida balaghat khamsan wa ishrin ila khamsin wa thalathin fafiha bintu makhadin untha. Et s'il en possède 25 jusqu'à 35. Donc ici, vous notez de 25 à 35. Il devra donner en zakat ce que l'on appelle en arabe bintu makhadin untha, c'est-à-dire une chamelle d'un an révolu, une chamelle qui a un an révolu. Ensuite, il dit: fa'il lam takun fabnu labunin dhakar. Et s'il ne peut pas, s'il n'en a pas, il n'en possède pas, il ne possède pas de chamelle d'un an, alors ce que l'on appelle ibnu laboun, c'est-à-dire un chameau de 2 ans révolu. Donc l'obligation pour celui qui possède de 25 à 35 chameaux est de verser en zakat une chamelle d'un an. Et s'il n'en a pas, alors un chameau
de 2 ans, un mâle.
Ensuite, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ Et s'il en possède 36 à 45, فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى Donc de 36 à 45, il doit donner بِنْتُ لَبُونٍ, c'est-à-dire une chamelle de 2 ans révolue. Ensuite, il dit, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَأَرْبَعِينَ Il a 16, s'il en possède de 46 à 60, donc toujours les chameaux. Fafiha hiqqatun taruqatul jamal. Alors il devra donner une hiqqa. Et le hiqqa, c'est quoi? C'est la chamelle de 3 ans révolue. Donc celui qui possède de 46 à 60 chameaux, il doit donner en zakat une chamelle de 3 ans. Ensuite il dit. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَ Et si les bêtes qu'il possède atteignent le nombre de 61 jusqu'à 75, donc s'il possède de 61 à 75 chameaux, alors il devra donner en zakat une jadha'a, qui est une chamelle de 4 ans révolue. Ensuite il dit فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًا وَسَبْعِينَ Il a 90, fafiha bintalaboun. Et si le nombre de chameaux qu'il possède atteint le nombre de 76 jusqu'à 90, alors il devra donner 2 bintlaboun, c'est-à-dire 2 femelles de 2 ans révolues. Fa'ida balaret ihda wa tis'in, il a 20 wa mi'a, fafiha hiqqatan. Taruqat al-jamal. Et si ce qu'il possède comme chameau atteint le nombre de 91 à 120, alors il devra donner en zakat 2 hiqqa. Et al-hiqqa, on a vu que c'est la chamelle de 3 ans révolue, donc il devra en donner 2 en guise de zakat. Ensuite il dit Fa'ida zadat ala 20 wa mi'a, fa fi kulli 40 bintu labun. Et s'il en possède une quantité supérieure à 120, c'est-à-dire à partir de 121 chameaux, alors il devra donner pour chaque tranche de 40 une bint laboun, c'est-à-dire une femelle de 2 ans révolue. Et pour chaque tranche de 50, une femelle de 3 ans révolue, une hiqqa. Ceci, une fois que cela est supérieur à 120. Ensuite, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا Et celui qui ne possède que 4 chameaux, alors il ne lui incombe aucune aumône, sauf si son propriétaire le souhaite. C'est-à-dire que, comme on a mentionné, celui qui possède de 1 à 4 chameaux qui sont au pâturage, alors il n'a pas de zakat à donner sur ses chameaux. Car le seuil minimum imposable concernant les chameaux, il est de 5. Ceci concerne donc la zakat sur les chameaux qui sont nourris au pâturage. Ensuite, il a mentionné la zakat d'al-ghanam, c'est-à-dire la zakat des ovins et des caprins, les moutons et les chèvres. Et il a dit « وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمْ فِي سَائِمَتِهَا » Et concernant la sadaqa, l'aumône, la zakat obligatoire d'al-ghanam, des moutons et des chèvres, toujours celles nourries au pâturage, sa'ima. Ida kanat arba'in ila 20 wa mi'a sha. S'il en possède de 40 à 120, alors il doit donner un mouton en aumône. Ensuite il dit fa'ida zadat ala 20 wa mi'a ila mi'atayn fa fiha shatan. S'il en possède plus de 120, c'est-à-dire à partir de 121, jusqu'à 200, alors il doit donner 2 moutons en aumône. 2 moutons pour la zakat. Donc de 120 à 200, il doit donner 2 moutons. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنَ إِلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاعٍ S'il en possède plus de 200, c'est-à-dire à partir de 201, jusqu'à 300, alors il devra donner 3 moutons en aumône. Ensuite il dit فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِئَةٍ ففي كل مئة شاة. Et s'il en possède plus de 300, alors il devra donner un mouton pour chaque tranche de sang. C'est-à-dire que de 40 à 120, il donne un mouton. De 121 à 200, il en donne deux. De 201 à 300, il en donne trois. Et ensuite, il en donne un par tranche de sang. Donc en réalité, de 201 à 399, il ne donnera que trois moutons, car il en donne un par tranche de sang. Et à partir de 400, il va donner 4 moutons. Donc de 400 à 499, il va donner 4 moutons. De 500 à 599, 5 moutons. De 600 à 699, 6 moutons. Et ainsi de suite. Un mouton par tranche de sang. Ensuite, il dit: فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عَنْ 40 شَاةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةً إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Et si les moutons en pâturage que l'homme possède sont inférieurs à 40, alors il ne lui incombe aucune aumône sauf si son propriétaire le souhaite. C'est-à-dire que celui qui possède de 1 à 39 moutons en pâturage, alors il ne lui incombe aucune zakat. Il est important de préciser ici que l'on parle de la zakat du bétail concernant le bétail que la personne possède dans un but d'élevage ou alors pour profiter de leur lait. Mais si une personne possède du bétail qu'il a acheté simplement pour faire du commerce, il ne cherche pas à faire de l'élevage. Par exemple, il n'achète que des mâles. Il souhaite que ceux-ci grandissent pour les revendre, par exemple, pour le Eid. Son objectif est seulement le commerce. Alors, dans ce cas-là, on ne regardera pas ces seuils que l'on vient de mentionner. Mais ces moutons seront considérés comme des biens commerciaux, des marchandises. Il devra donc donner la zakat dessus de la même manière que l'on la donne pour les biens commerciaux. Et on verra ce qui concerne les biens commerciaux par la suite dans les paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Ensuite, toujours dans le hadith, toujours dans cet écrit d'Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, il dit: وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقُ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعُ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. Ceci, c'est une règle très importante. Il dit, on ne réunit pas entre des choses séparées et on ne sépare pas des choses qui sont réunies par peur de la sadaqa, par peur de l'aumône, de la zakat obligatoire. Qu'est-ce que cela signifie? On ne réunit pas entre des choses qui sont séparées. Si par exemple, trois personnes possèdent chacune 40 moutons, on a vu que celui qui possède 40 moutons, il doit donner en zakat un mouton. Donc ces trois personnes devront donner chacune un mouton en zakat. Mais s'ils se réunissent, qu'ils réunissent leurs moutons ensemble, ils vont en posséder combien? Ils vont en posséder 120. Et on a vu que de 40 à 120 moutons, il n'y a qu'un seul mouton à donner en zakat. Donc s'ils font cela avec pour intention d'éviter la zakat, c'est-à-dire de ne donner qu'un seul mouton au lieu de un chacun, alors ceci est interdit. Ensuite, il dit, et on ne sépare pas ce qui est réuni. Si par exemple, deux personnes sont associées dans la propriété de 60 moutons, ils ont donc à donner en zakat un mouton. Mais si par peur ou pour éviter la zakat, au moment de son prélèvement, ou quelque temps avant, ils se séparent et partagent les moutons et en prennent 30 chacun. On a vu que celui qui ne possède que moins de 40 moutons, de 1 à 39, il n'a pas de zakat. Donc ils se séparent et en prennent 30 chacun. Pourquoi? Pour éviter la zakat. Ceci également est interdit. Mais il leur incombe de ne pas séparer entre ce qui est réuni. Ensuite, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيقَيْنَ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. Et en ce qui concerne les troupeaux mélangés, alors ils doivent s'arranger proportionnellement à ce qu'ils possèdent. Si par exemple, deux personnes possèdent des moutons qui mangent au même endroit, qui dorment au même endroit dans le même enclos, et dont le lait est trait au même endroit, alors pour ces moutons ou ces chèvres, il n'y aura qu'une seule zakat, même s'ils ont plusieurs propriétaires. À partir du moment où ils sont mélangés de cette manière, alors il n'incombe qu'une seule zakat. comme si elles n'avaient qu'un seul propriétaire. Et comment doivent-ils verser cette zakat? Si par exemple ils sont deux, et que l'un possède 60 bêtes, et l'autre en possède 40. Ils possèdent donc un total de 100 moutons. Ils vont devoir donner pour la zakat un mouton. Alors, si c'est celui qui en possède 60 qui va prélever un de ces moutons, l'autre, qui n'en possède que 40, il devra lui donner alors 40% de la valeur de ce mouton. Et inversement, si c'est celui qui possède 40 moutons qui a prélevé des siens le mouton à donner en zakat, alors l'autre devra lui donner 60% de la valeur de ce mouton. Ensuite, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَلَا يُخْرِجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ. Et il ne sort pas en aumône une bête âgée ni une bête qui a un défaut, par exemple qui est borgne, ou alors qui boite, ou autre parmi les défauts, qui empêche la bête, par exemple, de servir pour le sacrifice. Et les gens de science ont expliqué cela par le fait que la bête qui est âgée ou qui a un défaut, sa valeur est moindre. Et ceci est donc une forme d'injustice envers les pauvres. Et l'obligation, comme on va le voir, est de sortir une bête ou des bêtes de valeur moyenne. Ensuite, il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَفِي الرِّقَّةِ فِي مِئَتَيْ دِرْهَمْ رُبْعُ الْعُشْرَ. Et concernant les pièces d'argent, c'est-à-dire la matière de l'argent, car les dirhams étaient auparavant des pièces faites à partir de l'argent. Il dit, à partir de 200 dirhams, on doit verser 2,5%, c'est-à-dire 2,5% de la valeur. Et 200 dirhams, 200 pièces d'argent, équivalait à 595 grammes. Donc celui qui possède 595 grammes d'argent, il doit verser la zakat sur cet argent. Et concernant l'or, concernant les dinars, les pièces d'or, la zakat est obligatoire à partir de 20 dinars, 20 pièces d'or, ce qui équivaut à 85 grammes d'or. Donc celui qui possède 85 grammes d'or ou plus, il doit donner en aumône 2,5% de la valeur de cet or. Ensuite il dit, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِئَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Et s'il ne possède que 199 dirhams, c'est-à-dire s'il ne possède que 199 pièces d'argent. Par exemple, pour les grammes, s'il ne possède que 594 grammes d'argent, alors il n'a pas de sadaqa, il n'a pas de zakat à verser, car le seuil minimum est 595 grammes. Il en est de même pour l'or. S'il ne possède que 84 grammes d'or, alors il n'a pas de zakat à verser, car le seuil minimum est de 85 grammes. Il dit, sauf si son propriétaire le veut, s'il veut donner une aumône volontaire, mais il ne lui incombe pas de zakat. Ensuite, il donne une précision concernant la zakat sur les chameaux. Et il dit, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلْ صَدَقَةُ الْجَزَعَ. Et celui qui a atteint, concernant les chameaux, le seuil de l'aumône pour lequel il doit verser une jada'a. On a vu le jada'a, c'est la chamelle de 4 ans révolue. Donc cela concerne celui qui possède de 61 à 75 chameaux. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu, وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ jada'a. S'il ne possède pas de jada'a, s'il ne possède pas de chamelle de 4 ans. وَعِنْدَهُ حِقَّة. Mais qu'il possède une حِقَّة, une chamelle de 3 ans. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّة. Alors ceci est accepté de lui. وَيُجْعَلُ مَعَهَا شَاتَان إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ أَوْ 20 دِرْهَمًا. Et il devra ajouter à cela deux moutons, si cela lui est possible, ou alors 20 dirhams, 20 pièces d'argent. Donc celui qui possède 61 à 75 chameaux, il lui incombe de verser en aumône une chamelle de 4 ans. S'il ne possède pas de chamelle de 4 ans, il peut donner une chamelle de 3 ans, mais il devra ajouter à cela 2 moutons ou alors la valeur de 20 pièces d'argent, 20 dirhams. Ensuite il dit, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ. Et celui qui doit donner en aumône une حِقَّة, c'est-à-dire une chamelle de 3 ans, mais qui ne possède pas de chamelle de 3 ans. وَعِنْدَهُ الْجَذَعَ. Mais il possède une جَذَعَ, une chamelle de 4 ans. Donc lui, c'est l'inverse. Donc cela concerne celui qui possède de 46 à 60 chameaux. Il lui incombe de donner une hiqqa, une chamelle de 3 ans. Mais lui, il n'en a pas, il n'a qu'une chamelle de 4 ans. فإنها تقبل منه الجذعة. الجذعة est acceptée de lui. ويعطيه المصدق 20 درهم أو شاتين. Et celui qui prélève la zakat, il devra lui donner en compensation 20 dirhams, 20 pièces d'argent, ou 2 moutons. Donc, dans la ligne pour celui qui possède 46 à 60 chameaux. On note que l'obligation est une chamelle de 3 ans. S'il n'en possède pas et qu'il donne à la place une chamelle de 4 ans, alors on lui donnera en compensation 20 dirhams ou 2 moutons. C'est l'inverse de la situation précédente. Ensuite, il dit, rahimahullah, rawahu al-Bukhari. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Vous avez vu que dans celui-ci, tous les détails nécessaires à ce sujet sont mentionnés. Ensuite, il a mentionné un autre hadith concernant la zakat sur les bovins. Et il dit, وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ Et dans le hadith de Mu'adh, c'est-à-dire Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu ta'ala anhu, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ 30 بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعًا وَمِنْ كُلِّ 40 مُسِنَّخ رواه أهل السنن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné à Mu'adh de prélever pour chaque tranche de 30 bœufs, de 30 bovins, un tabi' ou une tabi'a, c'est-à-dire un bœuf mâle ou femelle d'un an révolu. Et pour chaque tranche de 40, une moussinna, c'est-à-dire un bœuf de 2 ans révolu. Donc concernant la zakat sur les bovins, on comprend que le seuil minimum à partir duquel la zakat est obligatoire, c'est 30 bœufs. Donc de 1 à 29, il n'y a pas de zakat. De 30 à 39, il doit donner un bœuf mâle ou femelle de 1 an révolu. De 40 à 59, il doit donner un bœuf de 2 ans révolu. De 60 à 69, il a ici 2 tranches de 30 bœufs. Donc, il va donner 2 bœufs de 1 an révolu. De 70 à 79, il va posséder ici une tranche de 40 et une tranche de 30. Donc, il va donner un bœuf de 1 an révolu et un bœuf de 2 ans révolu. Et ainsi de suite avec les différentes tranches. On a donc terminé ici ce qui concerne la zakat concernant le bétail de cheptel nourri au pâturage, qui est le premier bien soumis à la zakat. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَأَمَّا صَدَقَةُ الْأَثْمَانِ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ 200 دِرْهَمٍ وَفِيهَا رُبْعُ الْعُشْرِ Concernant la sadaqa, la zakat, l'aumône légale, sur les valeurs, c'est-à-dire sur les monnaies, l'or, l'argent et autres. Nous avons vu précédemment, c'est-à-dire dans le hadith de Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu, qu'il n'y a pas de zakat jusqu'à ce que la personne possède 200 dirhams, qui équivalent à 595 grammes d'argent. Et il devra donner 2,5% de leur valeur en zakat. Concernant l'or, on a dit que c'est à partir de 85 grammes d'or. On parle bien sûr de l'or pur. Celui qui possède 85 grammes d'or pur, il devra donner en zakat 2,5% de la valeur de cet or. Et concernant les monnaies, on a dit les devises que l'on utilise comme l'euro, le dollar et ainsi de suite. Concernant le montant de la zakat, c'est le même. Il est de 2,5%. Mais quel est le nisab? La réponse est que les gens de science ont mentionné que le nisab concernant les devises est le nisab de l'or ou de l'argent selon ce qui est le plus profitable pour les pauvres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'on va regarder le nisab dont la valeur est la plus basse afin qu'un maximum de personnes sortent la zakat et que cela soit ainsi plus profitable pour les pauvres. Et on sait à notre époque que l'argent est de moindre valeur comparé à l'or. Donc, il sera préconisé d'évaluer le nisab en fonction de la valeur de 595 grammes d'argent. Celui qui possède en devise, en euros, en dollars ou autre, l'équivalent de la valeur de 595 grammes d'argent, alors il a atteint le nisab. S'il possède ce montant ou plus Durant une année complète, une fois l'année écoulée, à la date anniversaire, il devra donner alors 2,5% de ce qu'il possède en zakat. À supposer que le nisab soit d'une valeur de 300 euros. Celui qui possède 300 euros, aujourd'hui, le 8 de Sha'ban 1442, il vient de gagner 300 euros. On suppose donc que ceci est le nisab. Si durant toute l'année, il ne dépense pas ses 300 euros et qu'il possède toujours au minimum cette somme, au 8 de Sha'ban de l'an prochain, il donnera alors 2,5% de ce qu'il possède, même si cela a augmenté. Si par exemple, l'an prochain, c'est ajouté à cela d'autres sommes d'argent et qu'il possède par exemple 1000 euros, alors il versera en zakat 2,5% de ces 1000 euros, c'est-à-dire 25 euros. Ceci est donc la manière de verser la zakat sur les monnaies. Et en ce qui concerne les matières qui sont l'or et l'argent, alors cela se fera en fonction du poids en évaluant leur valeur. Celui qui possède par exemple 1 kilo d'argent, de bijoux en argent ou autre, alors il regardera la valeur du kilo d'argent et il versera 2,5% de cette valeur. Et ainsi de suite en ce qui concerne l'or. Ceci concerne donc la zakat concernant al-athman, que ce soit des devises, que ce soit des pièces d'or ou d'argent, et entre dans cela également toute chose en or et en argent, que ce soit des lingots, des pièces, de la poudre d'or, de la poudre d'argent ou encore des bijoux, selon l'avis le plus juste des gens de science. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala, et on verra dans le cours de demain ce qui concerne la zakat des produits de la terre, ainsi que la zakat des biens commerciaux, et également certaines questions liées au versement de la zakat, bi'idhnillahi ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا